Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Au musée des lettres et des manuscrits boulevard Saint-Germain à Paris s'ouvre aujourd'hui une exposition intitulée Verlaine emprisonné, dont le commissaire Jean-Pierre Guénot est l'invité de Franck Ferrand sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Je suis ravi d'accueillir Jean-Pierre Guénot qui est un habitué de cette émission, ainsi que René Guiton qui a édité l'ouvrage de Bernard Boussman « Reviens, reviens cher ami, Rimbaud-Verlaine, l'affaire de Bruxelles ». Ça va nous occuper une partie de cette émission bien sûr.
Alors si vous avez des questions à poser à Franck et à ses invités, n'hésitez pas à le faire en vous rendant sur le site internet d'Europe 1.
C'est le moment de nous faire part des échos personnels qu'ont pu avoir sur votre vie les poèmes de Verlaine et ceux de Rimbaud.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Le 10 juillet 1873, à Bruxelles, dans un hôtel qui s'appelait l'Hôtel de la Ville de Courtrai, le poète Paul Verlaine tire deux coups de revolver en direction de son amant Arthur Rimbaud, qui est légèrement blessé par un des deux coups. Et plus tard, alors que Verlaine et sa mère raccompagnent Rimbaud en fiacre à la gare, une nouvelle altercation amène Verlaine à vouloir se saisir de nouveau de son revolver. Rimbaud prend peur, il saute en marche, si je puis dire, il alerte un gardien de la paix. Verlaine est arrêté, or, plutôt que les coups de feu eux-mêmes, c'est la relation homosexuelle avec Rimbaud qui va lui valoir d'être condamné à 2 ans de prison. Il est donc incarcéré dans les prisons belges du 10 juillet 73 au 16 janvier 75, soit 555 jours de captivité, pendant lesquels il va rédiger notamment un grand texte intitulé « Cellulairement ». C'est un recueil de poèmes. Le manuscrit de « Cellulairement » est entré dans les collections du musée des manuscrits en 2004 et il constitue évidemment le cœur de l'exposition qui s'ouvre aujourd'hui. Ce recueil, précisons-le, n'a pas été publié du vivant du poète. Après la libération de Verlaine, la plupart de ses poèmes seront en effet dispersés, ventilés dans différents recueils. Comme le dit Jean-Pierre Guénot dans la préface de son catalogue, il révélait sans doute trop de choses sur son auteur, tout à la fois déchirure sentimentale du poète, écartelée entre sa femme, son fils et son amant, les paradoxes de sa sensualité partagée entre les pulsions hétéro et homosexuelles et sa contradiction spirituelle lorsqu'il est simultanément crucifié par la tentation de l'enfer et par celle de la grâce, éclairé par Dieu mais toujours sensible au diable. Verlaine n'a pas trouvé Dieu parce qu'il ne le cherchait pas, renchérit René Guiton. Encore moins a-t-il adhéré au credo de l'Église catholique et à ses dogmes. Non, tout simplement, il a trouvé une autre forme d'amour, une sorte de liaison spirituelle et non plus charnelle avec une autre figure, cette présence réelle qui n'a plus les traits graciles de Rimbaud, mais une longue tête chevaline de Christ, un grand buste émacié sous de larges plis de vêtements, les mains effilées montrant le cœur. Avant de suivre Verlaine sur les sentiers escarpés de sa propre rédemption, je vous propose de revivre la rencontre entre ces deux génies, Verlaine et Rimbaud. Ce qui est certain, écrivait jadis Gérard Bauer, c'est que du jour où Verlaine et Rimbaud se sont rencontrés, il n'y a plus eu de paix ni pour l'un ni pour l'autre de ces poètes. La passion de l'alcool et une forme de déchéance attendaient Verlaine, c'est certain. L'irruption de Rimbaud allait donner un tour singulier à cette destinée déjà fortement lancée, comme l'a montré la cinéaste Agnieszka Holland dans le beau film qu'elle avait consacré il y a 18 ans à Rimbaud et Verlaine, avec Leonardo DiCaprio dans le rôle d'Arthur et David Thewlis dans celui de Paul. Je vous suggère d'ailleurs d'entendre, si vous voulez, un extrait de la bande originale de ce Rimbaud-Verlaine.
Thank you.
Donc un extrait de la bande originale du film d'Anjelska Holland, c'était en 1995, ce Rimbaud Verlaine. Bonjour à tous les deux, bonjour Jean-Pierre Guénot et René Guiton.
Bonjour.
Vous êtes donc très au courant de ce qui s'est passé en 1873 à Bruxelles, mais avant de venir sur cet événement lui-même, j'aimerais que vous nous disiez, Jean-Pierre Guénot, ce que la rencontre entre Verlaine et Rimbaud doit finalement à l'époque, aux circonstances. Il ne faut pas oublier qu'on est juste après la Commune de Paris. Ils se rencontrent à l'été 1871. Les Versaillais viennent juste de reprendre le contrôle de Paris qui s'était insurgé.
On est dans une société politiquement bloquée.
C'est ça.
Grosso modo, depuis la fin du Premier Empire, quasiment jusqu'à la Grande Guerre. Une société qui a des points communs avec celle que nous avons traversée en ce début de XXIe siècle, il y a quelques mois. Une société où l'argent est triomphant et où, bien sûr, les troubadours, les intermittents de la poésie ont une place relative. Deux générations ont lourdement hésité face à une alternative très simple, celle du suicide ou celle de la révolution. Mais quelle révolution quand tout est bloqué politiquement? Les deux révolutions, 1830-1848, vont avorter. Le suicide ou bien faire tout sauter dans un autre domaine. Seule la révolution culturelle va être praticable, celle des enfants du siècle, les Musset, les Hugo et tous les autres, au début du siècle, dans la lignée de Chateaubriand, et puis celle des maudits, à mi-parcours. Les maudits, et puis alors il y a une chose très troublante, c'est que si vous donnez l'art poétique...
Il faut citer les maudits en question.
Les maudits, il faut les citer, Verlaine, Rimbaud, ce fabuleux poète breton qu'était Tristan Corbière, mais aussi Marceline Desbordes-Valmore, ou encore Villiers de l'Isle-Adam.
Oui.
Et alors tous sont dans cette alternative et vont totalement, avec Verlaine, avec Rimbaud et dans la lignée de Baudelaire, refonder totalement la poésie, faire tout exploser. Et c'est très étonnant parce que tout ça coïncide totalement avec ce qui se passe dans le domaine de la peinture, l'explosion du symbolisme et de l'impressionnisme.
Alors au moment où ces deux maudits vont se rencontrer, Rimbaud a 17 ans, Verlaine en a 27. Rimbaud, à Charleville-Mézières, d'où il vient, avait entendu parler bien sûr de Verlaine et il l'admirait déjà.
Il l'admirait comme étant pour lui le plus grand des poètes de cette époque. C'est son modèle, d'une certaine manière. Et il entend le rencontrer, il veut le rencontrer, il lui écrit, il lui envoie des poèmes et qui ne laisse pas insensible, bien sûr, Verlaine, qui décèle là, tout de même, du génie. Et c'est ce qui va d'ailleurs...
Venez, chère grande âme, on vous attend.
Venez, chère grande âme... On vous attend et la grande âme va arriver à Paris et va rencontrer bien sûr et Verlaine et Charles Cros. Mm-hmm. Et jusque-là, les choses au départ vont être difficiles dans la relation parce que le jeune Rimbaud débarque à Paris. Et il a 17 ans, il est mal fagoté, il n'est surtout pas dans l'habit parisien
mal
de l'époque.
Peigné.
En pétard, comme on dirait aujourd'hui, un pantalon trop court, des chaussettes bleues en coton, etc. Bon, mais tout ça n'enlève pas, bien sûr, le génie. Simplement, il n'est pas dans son monde et il est très intimidé. Il va très peu parler, un peu sauvage. Et finalement, il est arrivé sans savoir où il allait dormir, où il allait coucher.
Et Verlaine va l'héberger.
Chez lui, chez les Mottet, chez sa belle famille qui est chez lui, en fait. Et c'est là que le diable rentre dans la bergerie.
Enfin, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il avait déjà quelques pions, le diable, dans cette bergerie-là. On peut dire que Verlaine était déjà sur une mauvaise pente, en quelque sorte, Jean-Pierre Guénot.
Oui, il était sur une mauvaise pente, car c'est un maudit dans tous les sens du mot, Verlaine. Bien au-delà de cet épisode, Verlaine est prisonnier de nombreuses cages. Et sa première cage, c'est sa laideur. C'est une chose qui l'accompagne du jour de sa naissance jusqu'au jour de sa mort. Verlaine est un emprisonné depuis le tout premier jour de sa vie jusqu'au dernier jour de sa vie. Cette laideur, elle est abondamment commentée par les mères de ses amis. Elle le suit toute sa vie à quelques années de sa mort. Quand il fait son autoportrait, Verlaine dialoguant avec lui-même, il dessine tout simplement un chimpanzé dialoguant avec un ouistiti. Donc c'est quelque chose de terrible. Et quand il a à se résumer, là encore, 4 ans avant sa mort, il doit illustrer avec 4 vers ce qu'il est, pour souligner un portrait fait de lui par un graveur qui s'appelle Castor. Il a des dizaines de milliers de vers à sa disposition. Il choisit la strophe 2 de la chanson de Gaspard Hauser, médiatisée par Moustaki et par Reggiani, qui commence par « Je suis venu, calme orphelin ». Que dit cette strophe 2 ? Quelque chose du style « À 20 ans, l'amoureuse flamme m'a fait trouver belles les femmes, mais elles ne m'ont pas trouvé beau. » Et tout est dit. Verlaine n'est pas né homosexuel. Il l'est devenu parce que entre l'âge de l'adolescence et 18 ans, seules les prostituées seront son recours, car il accumule les échecs avec les femmes. Et puis quant à la femme de sa vie, on en reparlera. La seule, celle qui était la femme idéale, elle va mourir. Elle va mourir car il faut savoir que la mère de Verlaine est une grande névrosée. Elle a mis 13 ans avant d'avoir le petit Paul, un enfant viable. Elle a fait 3 fausses couches. Elle a mis ces 3 fausses couches dans des bocaux. Les bocaux sont sur la cheminée familiale et la petite enfance de Verlaine, c'est un dialogue quotidien entre sa mère et sa fratrie, les 2 petits frères, la petite sœur. Et là, le drame de Verlaine, elle leur a donné des petits noms, le drame de Verlaine, c'est qu'il a, il est le sosie d'un fœtus. Jusqu'à l'âge de 30 ans.
Il va rester lui-même, oui, avec une physionomie qui peut rappeler celle de la
vie. Et à chaque fois qu'il regarde ses petits frères et sœurs, il a le sentiment de se regarder dans un miroir. Donc c'est quelque chose de terrible. C'est un enfermement qui le suit toute sa vie.
Et qui peut expliquer son basculement dans l'alcool.
Qui peut expliquer son basculement dans l'alcool et le livre que j'ai réalisé chez Gallimard, préfacé par René Guiton, comme l'exposition, opère ce va-et-vient incessant en décrivant les multiples cages qu'enferme le poète et ses multiples tentatives d'évasion, dont l'alcool qui est à la fois une tentative d'évasion et qui, bien sûr, débouche sur une cage.
Alors René Guiton, l'évasion la plus évidente, c'est celle de la fuite. Celle du départ de Verlaine avec Rimbaud, les voilà partis sur les, sur les chemins.
Elle est spectaculaire même, puisque Mathilde, l'épouse, la jeune épouse, qui a d'ailleurs le même âge que Rimbaud, la jeune épouse de Verlaine est patraque, et pas très bien, et elle demande à son mari, Paul, d'aller acheter une tisane, de la tisane, et il part, très sincèrement, acheter de la tisane, mais voilà que il rencontre Rimbaud à quelques dizaines de mètres de chez lui, et Rimbaud qui lui dit « Tu pars avec moi, nous partons ».
Ça, c'est l'injonction.
C'est une injonction. Et là, il ne pense plus ni à sa jeune épousée, ni à rien d'autre qu'à partir, ni à Georges, le petit Georges.
Son fils. Hein.
Son fils, qui naît fin octobre. Là, il part. Mathilde est enceinte, bien sûr. Et là, il part et ils vont partir en Belgique dans un premier temps vers leurs aventures qui ne vont faire que commencer et qui vont durer tout de même 3 années jusqu'à l'épisode que vous avez abordé en ouverture de l'émission tout à l'heure.
Sur cette fuite ou cette errance, nous revenons dans un instant et puis nous parlerons bien entendu de ce qui s'est passé à Bruxelles.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Un extrait sur Europe 1 de la fête galante de Claude Debussy sur un texte de Verlaine et interprété par Nathalie Dessay, Franck.
Ce texte de Verlaine qu'on n'entend pas vraiment, mais on est effectivement dans cette poésie intense. On peut dire que la fuite de Verlaine et de Rimbaud, alors ils vivent à Londres pendant tout un moment, n'est pas le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'est pas très heureux comme ménage, si je puis dire.
Oui, bien sûr. D'abord, ils sont en fuite. Ensuite, Verlaine est bien sûr déchiré entre deux amours, l'un qui est la raison, l'autre qui est la passion folle.
Et il se raison avec sa femme.
Oui, la raison
folle,
avec sa femme.
Monsieur Rimbaud.
Et à Londres, il se trouve parmi des groupes de communards, comme il l'était d'ailleurs auparavant un petit peu en Belgique, et notamment à Bruxelles. Finalement, ils n'ont pas grand-chose à dire à ces groupes. Et ils se retrouvent donc, en plus sans moyens matériels, ils se retrouvent en tête-à-tête. Et ces tête-à-tête, comme ils vont l'être d'ailleurs pendant toute leur vie commune, ils seront inséparables et toujours sur le point de se séparer. Car chacun a son caractère et l'admiration a beau être respective, il n'en demeure pas moins vrai que les raisons de dispute se font de plus en plus fréquentes, la boisson aidant, car ne l'oublions pas, bien sûr, Verlaine buvait déjà lorsqu'il était avant d'être marié.
Oui,
pendant qu'il était marié, il fréquentait les maisons closes, les fêtards, comme on dirait aujourd'hui. Et là, à Londres, il se trouve sans activité réelle lors de ce premier passage à Londres. Et forcément, les situations sont exacerbées, les esprits le sont, et il n'arrête pas de se disputer.
L'admiration, elle fait le fond de cette relation très forte entre ces deux hommes, mais il y a des caractères qui s'opposent effectivement. Rimbaud est totalement incontrôlable, il est dans la provocation permanente, et on peut dire que Verlaine, lui, est dans la culpabilité.
C'est surtout ça qui est à la base, on va le vivre dans les mois qui vont suivre. Il sera toujours en quête de cette honorabilité, car à Paris, on gose, on parle. Et même en étant loin, Verlaine est soucieux de cette réputation.
Finalement, Verlaine va décider de repartir pour le continent. Il va s'installer à Bruxelles.
Oui, là, c'est... Il y a eu des allers-retours entre Londres, la Belgique, etc. Mais le départ, le grand départ, qui finalement est motivé par tout simplement un petit incident ridicule, d'une moquerie de Rimbaud qui voit arriver Verlaine avec un hareng à la main et une bouteille d'huile, va éclater de rire, etc. Mais ça, c'est la bouteille d'huile qui fait déborder le vase.
Oui,
et
ça.
Verlaine va aller immédiatement sans bagage, sans rien, au port, sauter dans le premier bateau venu pour Anvers. D'Anvers, il ira à Bruxelles et il descend à la gare du Nord et va au premier hôtel venu. Finalement, il ne sait pas trop pourquoi. Il fuit, il est déchiré et il veut surtout renouer avec sa femme.
Et il écrit à sa famille, hein,
il écrit à Mathilde, et là le drame va se révéler, c'est qu'il écrit à Mathilde pour lui demander certains documents qu'il a laissés à la maison, il lui indique où ces documents se trouvent dans son bureau, elle va chercher et bien entendu va tomber sur des lettres qu'elle ne va pas comprendre, tellement pour elle c'est un monde étrange, étranger, inimaginable, même si elle pense que ce sont des délires d'artistes entre eux, de créateurs. Elle ne comprend pas, elle ne peut pas l'admettre. Et bien sûr, là, la rupture, parce qu'autour d'elle, tout de même, si elle ne comprend pas, autour d'elle, on comprend. Et là, la rupture va se consommer. Verlaine va régulièrement chercher à renouer avec Mathilde, va lui demander de venir dans les 3 jours. Alors c'est toujours très étonnant lorsqu'on lit ces échanges avec le recul, de voir qu'ils s'écrivent, qu'ils reçoivent des lettres en retour, des télégrammes, etc. Finalement, la poste fonctionnait très bien.
Oui, très bien.
Et donc, c'est une injonction envers sa femme. Si tu n'es pas là dans les 3 jours, je me brûlerai la gueule.
C'est-à-dire je me tuerai,
je me suiciderai. On dirait aujourd'hui je me brûlerai la cervelle, mais on l'aura compris. Il écrit à tout le monde d'ailleurs à ce moment-là. Et finalement,
il a fermement l'intention de se suicider.
Oui, vraiment. C'est pour ça qu'il va acheter cette arme d'ailleurs.
Hein, oui, il achète cette arme. On ne sait pas si c'est pour se suicider, pour tirer sur Rimbaud, pour tirer sur tout le monde, comme il le dit. Mais oui, je suis aussi convaincu qu'il envisageait de se suicider, justement devant cet amour impossible, ces amours impossibles.
Rimbaud, depuis Londres, l'a rappelé, lui a demandé de revenir. Reviens, reviens, hein, vous en avez
reviens,
fait le titre.
Reviens,
reviens,
cher ami, c'est un télégramme, en effet, une lettre qu'il adresse à Verlaine, alors que Verlaine, dans le même temps, Verlaine quitte Londres, Rimbaud lui écrit et Verlaine sur le bateau lui écrit depuis le bord également une lettre d'explication. Ces courriers vont se croiser, mais finalement c'est Rimbaud qui viendra rejoindre Verlaine à l'hôtel de Bruxelles. Et où Verlaine a réussi à faire venir sa mère également, parce que, encore une fois, il a écrit à tout le monde qu'il allait se suicider.
La grande dispute a lieu sous les yeux de la mère de Verlaine.
Oui, c'est tout d'abord, les trois se retrouvent. Bien sûr, là encore, il ne faut jamais oublier que l'alcool pousse ces crises dans leurs extrêmes et va donner ce drame qui va se passer dans cet hôtel.
Ce drame, nous allons le revivre, documents à l'appui, dans un instant.
Europe 1. Le récit de Franck Ferrand.
Avec un récit de Franck qui revient maintenant sur le drame de Bruxelles qui opposa Verlaine à Rimbaud.
Et oui, le 10 juillet 1873. Alors je feuillette le beau catalogue que coédite le musée des lettres et des manuscrits et Gallimard, Verlaine emprisonné pour cette exposition qui vient d'être inaugurée. Et l'on a évidemment les photographies de tous les documents, de toutes les lettres, notamment la célèbre lettre du 4 juillet 1873 adressée depuis Londres à Verlaine par Rimbaud, Londres vendredi après-midi, c'est ce qu'on lit tout à fait en haut de la lettre. Reviens, reviens, cher ami, seul ami, reviens, je te jure, je serai bon. Si j'étais maussade avec toi, c'est une plaisanterie où je me suis entêté. Je m'en repens plus qu'on ne peut dire. Reviens, ce sera bien oublié. Quel malheur que tu aies cru à cette plaisanterie. On est toujours sur cette plaisanterie des harengs, hein, dont nous parlait René Guiton tout à l'heure. Quel malheur que tu aies cru à cette plaisanterie. Voilà 2 jours que je ne cesse de pleurer. Reviens, sois courageux, cher ami, rien n'est perdu. Tu n'as qu'à refaire le voyage. Nous revivrons ici bien courageusement, patiemment. Ah, je t'en supplie. C'est ton bien d'ailleurs. Reviens, tu retrouveras toutes tes affaires. J'espère que tu sais bien à présent qu'il n'y avait rien de vrai dans notre discussion, l'affreux moment. Mais toi, quand je te faisais signe de quitter le bateau, pourquoi ne venais-tu pas ? Nous avons vécu 2 ans ensemble pour arriver à cette heure-là. Que vas-tu faire? Si tu ne veux pas revenir ici, veux-tu que j'aille te retrouver où tu es? C'est précisément ce que va faire Rimbaud. Il va aller retrouver à Bruxelles. Il va aller retrouver Verlaine. Alors, voici la déposition d'Arthur Rimbaud au commissaire adjoint de police de Bruxelles. On est donc à 8 heures du soir, après le drame qui a eu lieu donc ce 10 juillet 1873. Voilà la déposition de Rimbaud. Depuis 1 an, j'habite Londres avec le sieur Verlaine. Nous faisions des... Alors évidemment, on n'est pas dans un style poétique là, puisque c'est l'agent de police qui a transcrit. Nous faisions des correspondances pour les journaux et donnions des leçons de français. Sa société était devenue impossible et j'avais manifesté le désir de retourner à Paris. Il y a 4 jours, il m'a quitté pour venir à Bruxelles et m'a envoyé un télégramme pour venir le rejoindre. Je suis arrivé depuis 2 jours et je suis allé me loger avec lui et sa mère, rue des Brasseurs, numéro 1. Je manifestais toujours le désir de retourner à Paris. Il me répondait « Oui, pars et tu verras ». Ce matin, il est allé acheter un revolver au passage des galeries Saint-Hubert. Il m'a montré ce revolver à son retour, vers midi. Nous sommes ensuite allés à la maison des Brasseurs, Grand Place, où nous avons continué à causer de mon départ. Rentré au logement vers 2 heures, il a fermé la porte à clé, s'est assis devant. Et puis, armant son revolver, il en a tiré 2 coups en disant « Tiens, je t'apprendrai à vouloir partir ». Ces coups de feu ont été tirés à 3 mètres de distance. Le premier m'a blessé au poignet gauche, le second ne m'a pas atteint. Sa mère était présente et m'a porté les premiers soins. Je me suis rendu ensuite à l'hôpital Saint-Jean où l'on m'a pansé. J'étais accompagné par Verlaine et sa mère. Le pansement fini, nous sommes revenus tous 3 à la maison. Verlaine me disait toujours de ne pas le quitter, de rester avec lui. Mais je n'ai pas voulu consentir et je suis parti vers 7 heures du soir, accompagné de Verlaine et de sa mère. Arrivé aux environs de la place Roupe, Verlaine m'a devancé de quelques pas, puis il est revenu vers moi. Je l'ai vu mettre sa main en poche pour saisir son revolver. J'ai fait demi-tour et suis revenu sur mes pas. J'ai rencontré l'agent de police à qui j'ai fait part de ce qui était arrivé et qui a invité Verlaine à le suivre au bureau de police. Si ce dernier m'avait laissé partir librement, je n'aurais pas porté plainte à sa charge pour la blessure qu'il m'a faite. » En vérité, Rimbaud, dans cette affaire, a eu peur. Et il a sans doute été trop loin. C'est-à-dire qu'en vérité, étant mineur, il n'a jamais pu retirer sa déposition et il n'a pas pu retirer de plainte, puisque à partir de ce moment-là, c'est directement le parquet à Bruxelles qui va instruire contre Verlaine. Voici ce que, dans « Mes prisons », Verlaine écrira de ses premières heures d'incarcération. « Une vaste cour pavée plutôt longue, d'affreux types en général, beaucoup d'Allemands, majorité de Belges, naturellement, des Italiens comme de juste et trop de Français assez hideux, hélas. J'arrive là ahuri, timide et comme ivre encore. D'ailleurs bien mis, je suis l'objet de la part de mes camarades de quolibets, de ricanements. De quel regard qui me tue vraiment. On sonne une cloche, c'est le déjeuner. Le réfectoire est crépi à la chaux. Des tables et des bancs pas propres, et l'on s'attable devant des gamelles d'étain et des cuillères de fer, cette pâtée, de l'orge à la graisse, évidemment, de cheval, je m'y connais, moi, parisien du siège. Je fus mis dans la même prison en cellule sur l'ordre du juge d'instruction, un hamac et une couverture, une table, un tabouret, un lavabo et un seau. Nourriture, une pâtée d'orge, le dimanche, une pâtée de pois concassé, boisson, de l'eau à discrétion. Signe particulier, dès le premier jour, j'attrapais des poux. Une fois par jour, le matin, les prévenus par section descendaient dans une cour pavée, ornée au milieu d'un petit jardin, tout en la fleur jaune nommée souci, munie de leur seau, mieux épi d'hygiénique, qu'ils devaient vider à un endroit désigné et rincer avant de commencer leur promenade à la queue-leu-leu, sous l'œil d'un gardien tout au plus humain. Les dimanches, messe basse, en une chapelle trop laide vraiment, sans un chant, sans un sermon.
Sur Europe 1, une musique de Reynaldo Hahn sur le texte de Verlaine.
Ce que disait à l'instant René Guiton, c'est que si Verlaine se retrouve en prison, c'est qu'il a fait l'objet d'un véritable acharnement de la part du juge.
Oui, ce n'est pas pour la blessure sur le bras gauche,
sur Rimbaud,
du bras gauche de Rimbaud, mais à partir des courriers que l'on va trouver et dans les affaires de Rimbaud et sur Verlaine, le juge va être convaincu immédiatement qu'il ne s'agit pas de communards en fuite, que c'est une affaire de mœurs. Et ça, le juge T. Sir Stevens ne peut pas l'admettre. Et il va condamné, bien sûr, au maximum de la peine prévue dans ce cas, c'est-à-dire 2 ans de prison ferme et 200 francs d'amende.
Il y a, Jean-Pierre Guénot, cette mesure particulièrement humiliante, cet examen médical que vous reproduisez, justement.
Terrible, parce que Verlaine paye très cher. On a trouvé sur lui une pièce à conviction, un poème manuscrit de sa main qu'il a toujours sur lui, écrit, qui s'appelle « Le bon disciple » et qui décrit une étreinte avec Rimbaud. Donc ça, c'est la preuve par l'absolu. Et alors là, ils vont subir un examen médical épouvantablement humiliant. Chacun va se voir observer à la loupe. On observe leur pénis, leur anus, afin de déceler des habitudes pédérastiques. C'est quelque chose d'épouvantable. On sait que la prison broie les gens, mais ce genre d'épreuve est quelque chose de terrible et ne cessera de hanter par la suite, de hanter Paul Verlaine. Parmi ses tentatives d'évasion, lorsqu'il est incarcéré, il y a le sommeil. C'est un vieux truc de tous les détenus. Mais le sommeil va le crucifier. Il va être transpercé par ce que j'appelle un peu les échardes, les épines de la mémoire, revivre ses bonheurs, revivre ses malheurs.
Nous allons justement revenir dans un instant sur toutes les conséquences de cette longue captivité et sur l'incroyable mutation intime qu'a connue Verlaine pendant ses 555 jours d'emprisonnement.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Et nous parlons aujourd'hui sur Europe 1 de Verlaine et de Rimbaud et de leur liaison pour le moins houleuse et dramatique, Franck.
Alors le rapport, il figure à l'exposition, il vient de la Bibliothèque Royale de Bruxelles et pendant très longtemps on ne pouvait pas le voir ce rapport, Jean-Pierre Guénot.
Il était absolument inaccessible, il y a toujours eu peut-être une honte de tout ça, une façon de retenir l'information.
Et qui a certains... De la part des Belges.
Et qui à certains égards dure encore, car nous devions exposer dans notre exposition le revolver avec lequel Verlaine a tiré sur Rimbaud. Nous ne pouvons pas le faire parce que nos amis belges préparent une grande exposition à Mons en 2015 et ont séquestré pour 3 ans le revolver original pour ne pas déflorer un scoop qui n'en est plus un. Mais rassurez-vous, ces revolvers étaient fabriqués en série et on observe dans l'exposition au 222 boulevard Saint-Germain un revolver qui est le frère jumeau de celui avec lequel... Alors c'est très émouvant de le voir parce que c'est un revolver de femme, c'est un petit revolver le faucheux,
un pistolet à six coups
et avec une gâchette qui peut se replier pour qu'il puisse tenir dans la poche. C'est un joujou.
Ouais, c'est vraiment... Mais il faut dire que ce pistolet est apparu en 2004 seulement. C'est-à-dire que toute cette affaire a été sous silence, sous scellé au sein du ministère de la Justice belge de 1873 à 1900. Alors en 1910, un premier avocat essaie d'obtenir des documents, il n'y arrive pas, etc. Des successions de tentatives, soit par les conservateurs de la Bibliothèque royale de Belgique qui demandent le transfert de ce dossier, car il y a tout de même littérature, même si au ministère de la Justice on dit non, c'est une affaire de mœurs. Mais oui, mais elle a tellement d'importance sur la littérature et donc plusieurs interventions auront lieu et jamais, jamais couronnées de succès jusque dans les années récentes où finalement on a été autorisé seulement en 2006 pour la première fois à publier dans un livre le fac-similé de ce rapport dont parlait Jean-Pierre Guénot.
Et il faut dire ce qui réactive tout ça. En 2004, le manuscrit cellulairement passe en vente publique. Là, il y a un dénicheur de génie, Gérard L'Héritier.
Cellulairement, ce sont tous ces... C'est le recueil de tous ces poèmes écrits en captivité.
Tous ces poèmes ont été écrits, il les a accumulés. Il a voulu les publier, il n'a pas pu le faire. Ensuite, il a changé d'avis. Mais ça forme un ensemble cohérent, prémédité par Verlaine. Ce manuscrit disparaît pendant très longtemps. Il passe entre les mains de Louis Barthou. Et puis, bref, accélérons. En 2004, il est en vente. Et là, il y a un inventeur de génie qui a créé Aristophile, qui fait vivre les deux musées des lettres manuscrits. Gérard L'Héritier,
à l'origine de ce musée,
qui sont à l'origine de ce musée, dénichent le manuscrit, en font l'acquisition en vente publique. Il est, dans les jours qui suivent, classé trésor national par l'État français. Et puis là, on commence à pouvoir enfin le partager. Et ça va déclencher tout un tas de recherches, tout un tas de choses. Le livre de poche va être assez rapide. C'est d'abord le Castor Astral qui va publier le texte, puis le livre de poche. Mais jamais ce manuscrit n'avait été montré au grand public.
Et c'est ça. Et si les poèmes avaient été repris les uns et les autres dans différents recueils, on n'avait jamais eu cet ensemble, ce corpus dans sa version originale, dans sa version manuscrite.
Et c'était d'autant plus dommageable qu'on y trouve des poèmes qui sont parmi les plus beaux de Verlaine. Habituellement, la prison détruit les hommes. Mais pendant 18 mois... Rimbaud est sevré d'absinthe.
C'est ça. Alors, c'est-à-dire qu'il a tout perdu dans cette affaire. Il a perdu Rimbaud, bien entendu. Il va perdre sa femme, son fils.
Voilà. Ça ne sera pas une garde partagée, ça ne sera pas une garde alternée.
Donc, il se retrouve vraiment démuni de tout, dans un état de déchéance totale, sevré de cette absinthe qui était devenue sa compagne, disons-le.
Et alors qu'habituellement, la prison pulvérise les hommes, elle va lui permettre, parce qu'il est sobre, de se réunifier. Il était capable, sous absinthe, d'écrire des vers magiques, les vers qu'on lui connaît, la petite musique de l'âme, de vers Verlaine. Mais là, il va monter d'un cran. Il va être capable de conceptualiser, et c'est un poème de captivité, l'art poétique, qui refonde, tout comme la lettre du voyant de Rimbaud, qui refonde la poésie moderne.
On ne peut s'empêcher de penser à ce qui va advenir quelques années plus tard en Angleterre, avec le cas d'Oscar Wilde, bien entendu, et ce texte écrit par Oscar Wilde, De Profundis, à la geôle de Reading. Mais il y a quelque chose de très sombre, de profondément désespéré dans De Profundis, alors qu'ici, on a l'impression que chez Verlaine, la prison est le cadre d'une véritable illumination, René Guiton.
Oui, il dira d'ailleurs que c'était sa part de ciel, cette période en prison, le plus beau des châteaux. Et c'est vrai, comme le disait Jean-Pierre Guénot, que dans cette prison où il a pensé se convertir à un moment, cette solitude terrible, ce sevrage de la société environnante, il aura écrit à Victor Hugo, il écrira beaucoup dans ces moments-là, mais seulement il écrira ce qu'il y a de plus extraordinaire, ce sont ses œuvres de cette captivité. Et on peut presque se féliciter de l'obscurantisme du juge, parce qu'il aura donné, dans cette période, des poèmes parmi les plus extraordinaires de Verlaine.
Mais ne croyons pas pour autant que c'est un chemin de pétales de rose. Il y a dans ses poèmes et dans la vie quotidienne pendant ces 555 jours de Verlaine un va-et-vient permanent entre les délices du ciel et les horreurs de l'enfer. Il passe de phases optimistes à des phases dépressives. Ses souvenirs reviennent le hanter, entre autres, c'est la femme de sa vie. Pendant que la mère jouait avec les trois fœtus, elle a aussi adopté une cousine orpheline. Il lui fallait une présence humaine. Oui. La petite Elisa, qui partageait le même prénom. Elisa, c'est la femme idéale. Elle a été la fée, elle avait 8 ans de plus que Verlaine, elle a été la fée penchée sur son berceau. Elle a été sa demi-sœur, sa demi-mère, celle qui a partagé les vacances de son enfance, celle de son adolescence. C'est elle qui a payé, car on ne pouvait être édité qu'à compte d'auteur à l'époque, l'édition des premiers poèmes de Verlaine, les poèmes saturniens. C'est pour lui la femme idéale. Malheureusement, elle a été mariée, on fait des mariages de raison à cette époque-là, avec un sucrier, elle a déjà 2 enfants. Il aurait peut-être pu se passer quelque chose, on ne sait pas ce que la vie aurait fait. Malheureusement, elle va mourir en couche lors de la naissance de son 3e enfant. Et Verlaine décrit son enterrement qui est terrible. C'est dans un cimetière dans le Nord, au pays de la boue et de la betterave, sous une pluie battante. Il reste seul au bord de la tombe ouverte et il se décrit triste comme un chien fumant sous la pluie. C'est son drame. Et c'est ce drame-là qui va venir le hanter et produire. Il a écrit ses plus beaux poèmes quand il était jeune. Nous avons tous en tête ces vers. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre et m'aime et me comprend. C'est Elisa. Verlaine aurait été capable d'écrire les plus beaux poèmes d'amour, les plus hétérosexuels de la langue française, mais aussi les poèmes les plus homosexuels de la langue française.
Ce sera si fatal qu'on en croira mourir. Des larmes ruisselant douces le long des joues, des rires sanglotés dans le fracas des roues, des invocations à l'oubli de venir, des mots anciens comme un bouquet de fleurs fanées. Les bruits aigres des bals publics arriveront et des femmes avec du cuivre après leur front paysanne fendront la foule des traînées qui flânent là, causant avec d'affreux moutards et des vieux sans sourcils fumeurs de gros cigares, cependant qu'à 2 pas dans des senteurs de gare, quelques fêtes publiques enverra des pétards.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Il pleure dans mon cœur. Comme il pleut sur la vie, quelle est cette langue qui pénètre mon cœur au bruit doux de la pluie par terre et sur.
Sur Europe 1, un texte de Verlaine interprété par Léo Ferret.
Que fait Rimbaud pendant ce temps, pendant la captivité de Verlaine? Il rédige une saison en enfer.
Jean-Pierre Dinon. C'est ça qui est absolument magique, c'est que ce fait divers déclenche cellulairement d'un côté et de l'autre côté une saison en enfer. Rimbaud est isolé et rédige son chef-d'œuvre absolu.
Ils se reverront du reste à Stuttgart, mais ce sera pas, une fois de plus, ce sera des retrouvailles manquées, René Guiton.
Oui, à Stuttgart, ou comme ils l'écrivent, où le jeune Rimbaud est au pair dans une famille Lübeck ou Lübner, chez le docteur Lübner, et où Verlaine va le rejoindre à peine libéré. Et ils vont passer quelques jours ensemble à refaire leur monde. Et leur monde, c'est bien sûr aussi l'alcool, qui aide toujours à la discute et à la dispute et aux excès que l'on a connus. Néanmoins, ils ne vont pas partir fâchés. Ils ne vont pas se fâcher définitivement, même si à partir de Francfort, finalement, Rimbaud ne va plus rien écrire. Il ne va plus écrire, il va confier sa dernière œuvre à Verlaine pour que Verlaine la fasse éditer, mais il n'écrira plus rien. C'est vraiment la ville de la fin du poète, même si les œuvres paraîtront bien sûr par la suite. Ça, c'est ce en quoi cette fin est triste. Vous parliez tout à l'heure du film avec DiCaprio. Justement, ils ont repensé à cette scène de la rencontre dans les bas-fonds de Stuttgart. Et je trouvais que c'était assez bien imaginé, puisqu'on n'a pas de documents très précis sur ces quelques journées.
En tout cas, c'est un très beau film qu'on peut recommander, qui est très beau.
Il faut rappeler que l'alcool aidant, l'absinthe aidant, les amours de Verlaine et Rimbaud sont des amours de tigre. Quelques semaines avant l'affaire de Bruxelles, au café du Rat Mort, Verlaine a été poignardé par Rimbaud de 5 coups de couteau. C'est vraiment quelque chose. L'absinthe rend fou. Verlaine, qui était un homme qui pouvait être doux, gentil, même lâche, veule, pouvait sous l'effet de l'alcool se transformer en monstre et, à côté docteur Jekyll et Mr Hyde, brutaliser sa femme et brutaliser son fils.
Oui, mais Rimbaud, Verlaine le compare à Ève. En fait, il se compare à Adam, lui, Verlaine, et compare Rimbaud à Ève, car le serpent est venu et l'a habité. Il dit bien, finalement, on n'est pas le diable, on le devient. Et si lui est devenu un peu le diable, c'est par cette relation diabolique avec, en tous les cas diabolique, vu avec les yeux de l'époque et surtout ceux du juge.
Tout à l'heure, Jean-Pierre Guénot parlait de cages dans lesquelles Verlaine, encore libre, était enfermé psychologiquement. On a l'impression que, tout à l'inverse, dans les geôles de Belgique, pendant ces 555 jours de captivité, il va se libérer, en quelque sorte. C'est un double paradoxe, ça.
C'est beaucoup plus complexe, parce que toutes ces cages lui reviennent en travers de la figure, d'une certaine façon, celle de sa laideur, celle la cage familiale, celle de sa mère, sa cage existentielle, c'est un grand torturé, la cage politique que l'on évoquait tout à l'heure, la cage de sa sexualité, qui est aussi un enfermement de sa bisexualité, la cage de sa santé, qui n'est pas bonne, c'est un alcoolique, il est syphilitique, il va devenir diabétique, la cage de l'alcool. À côté, toutes les tentatives d'évasion. L'alcool, à nouveau, qui est ambigu. La religion, cet assaut mystique qu'il va subir quand il sera en prison. Le sexe, qui est une façon d'essayer de s'évader. Ce mariage de convention, il est amoureux, mais il a épousé une gamine qui est une midinette, qui, dans ses confessions, évoque sa laideur, c'est sa première impression, puis qui finalement se laisse séduire parce qu'il a une certaine notoriété, c'est un poète. Le sommeil, mais le sommeil le renvoie à ses cauchemars. Et en fin de compte, toutes les tentatives d'évasion, même celles de la spiritualité, vont avorter. Une seule va fonctionner, c'est l'écriture, c'est la poésie. Et là, ce qui est magique, c'est que c'est ce que la postérité, en fin de compte, va reconnaître. Et on conclura peut-être tout à l'heure avec ça, mais ce qui est magique, c'est que la seule voie qui a permis de soulager quelque peu un tant soit peu, de libérer Verlaine, c'est celle qui finira par libérer le monde, on y reviendra tout à l'heure, 50 ans après la disparition de Verlaine.
Oui, au moment de la Seconde Guerre mondiale. Cette illumination qu'il a connue en prison, René Guiton, comment la définiriez-vous d'un point de vue chrétien ?
Oui, je vois à quoi vous faites allusion, à la conversion de Paul, que j'ai comparé à la conversion de Paul, à l'illumination qu'a pu avoir Saul sur le chemin de Damas. Mais en fait, et là justement Jean-Pierre Guénot a très bien analysé sur le reste de la vie de Verlaine, on verra que si il a eu à un moment conversion, il y a eu conversion en prison, on lui a donné le catéchisme de persévérance de l'évêque Jean-Joseph Gaume, etc., qu'il trouve d'ailleurs très mal écrit, mais en fait c'est une crise mystique. Et elle ne va pas durer, parce que c'est une crise, précisément. Et donc, c'est une fausse conversion, comme il l'a écrit d'ailleurs, lui, antérieurement, comme une sorte de préfiguration de ce qu'il allait vivre. Il a écrit un texte qui s'appelle « La fausse conversion ». Et donc, je crois que même lorsqu'il va retrouver Rimbaud à Stuttgart avec un chapelet à la main, eh bien, ce Loyola-là n'aura rien de sincère quant à sa conversion définitive.
Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant des blêmes quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure.
Chanson d'automne sur Europe 1, Charles Trenet.
Au vent mauvais qui m'emporte.
Cancer du genou, Verlaine finissant à l'hôpital avec des cannes, les jambes rongées par des ulcères. Et puis la postérité va apporter quelque chose de magique. On vient d'entendre ce poème, la chanson d'automne que Trenet met à son répertoire en 40, désespéré par l'invasion nazie. Mais il a touché au texte. Ça n'est pas « blesse mon cœur d'une langueur monotone » comme l'a écrit Verlaine, ça devient «
berce ». Ça devient « berce » chez Trenet.
Et alors ce qui est merveilleux, c'est quand la BBC veut donner le signal de la libération du monde, prévenir les résistants du fait qu'il faut qu'ils se soulèvent pour accompagner le débarquement, on diffuse sur la BBC les vers de Verlaine, qui vont devenir le symbole de la liberté et de la libération, mais c'est du Verlaine revu et corrigé par Trenet.
Ah oui, et qui devient historique par la même occasion. Verlaine emprisonné, c'est donc l'exposition que l'on peut visiter jusqu'au 5 mai prochain au musée des lettres et des manuscrits, boulevard 222, boulevard Saint-Germain, à Paris. Ça fait l'objet donc d'un très beau catalogue co-publié par le musée des lettres et des manuscrits et Gallimard, Verlaine emprisonné de Jean-Pierre Guénot et Gérard L'Héritier. Et puis je rappelle que Reviens, cher ami, Rimbaud Verlaine, l'affaire de Bruxelles, de Bernard Boussman, édité par René Guiton, est disponible encore chez Calman Lévy. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous en parler. Je vous signale aussi que Cellulairement, suivi de Méprison, donc de Verlaine, est réédité en ce moment même aux éditions Gallimard, dans une édition de Pierre Brunel, accompagnée du fac-similé du manuscrit original.